Épargnez-vous la feinte. Je sais sur votre compte tout ce que l'on peut savoir. La comtesse est moins mystérieuse que vous. Les femmes de son espèce sont prodigues des secrets de leurs adorateurs. Surtout lorsqu'une tournure discrète comme la vôtre pourrait leur dérober leur triomphe. Je suis loin de l'accuser de coquetterie, mais une prude n'a pas moins de vanité qu'une coquette. Parlez-moi franchement, n'êtes-vous pas souvent la victime de cet étrange caractère? Parlez, parlez. Mais madame, vous vouliez rentrer et l'air, il a changé. Elle avait repris mon bras. Et nous recommencions à marcher sans que je m'aperçusse de la route que nous prenions. Ce qu'elle venait de me dire de l'amant que je lui connaissais. Ce qu'elle me disait de la maîtresse qu'elle me savait. Ce voyage, la scène du carrosse, celle du banc de gazon, l'heure, tout cela me troublait. J'étais tour à tour emporté par l'amour-propre ou les désirs et ramené par la réflexion. J'étais d'ailleurs trop ému pour me rendre compte de ce que j'éprouvais. Tandis que j'étais en proie à des mouvements si confus, elle avait continué de parler et toujours de la comtesse. Mon silence paraissait confirmer tout ce qui lui plaisait d'en dire. Quelques traits qui lui échappèrent me firent pourtant revenir à moi. « Comme elle est fine, disait-elle, qu'elle a de grâce, une perfidie dans sa bouche prend l'air d'une saillie, une infidélité paraît un effort de raison, un sacrifice à la décence, point d'abandon, toujours aimable, rarement tendre, et jamais vrai. Galante par caractère, prude par système, vive, prudente, adroite, étourdie, sensible, savante, coquette et philosophe. C'est un protée pour les formes. C'est une grâce pour les manières. Elle attire, elle échappe. Combien je lui ai vu jouer de rôle. Entre nous, que de dupes l'environnent. Comme elle s'est moquée du baron, que de tours elle a fait au marquis. Lorsqu'elle vous prie, c'était pour distraire deux rivaux trop imprudents et qui étaient sur le point de faire un éclat. Elle les avait trop ménagés. Ils avaient eu le temps de l'observer et ils auraient fini par la convaincre. Mais elle vous mit en scène, les occupa de vos soins, les amena à des recherches nouvelles, vous désespéra, vous plaignit, vous consola et vous fûtes contents tous les quatre. Ah, qu'une femme adroite a d'empire sur vous et qu'elle est heureuse lorsqu'à ce jeu-là, elle affecte tout et n'y met rien du sien. Madame de T accompagna cette dernière phrase d'un soupir très significatif. C'était le coup de maître. Je sentis qu'on venait de m'ôter un bandeau de dessus les yeux et ne vis point celui qu'on y mettait. Mon amante me parut la plus fausse de toutes les femmes, et je crus tenir l'être sensible. Je soupirai aussi sans savoir à qui s'adressait ce soupir, sans démêler si le regret ou l'espoir l'avait fait naître. On parut fâché de m'avoir affligé et de s'être laissé emporter trop loin dans une peinture qui pouvait paraître suspecte, étant faite par une femme. Je ne concevais rien à tout ce que j'entendais. Nous enfilions la grande route du sentiment. et la reprenions de si haut qu'il était impossible d'entrevoir le terme du voyage. Au milieu de nos raisonnements métaphysiques, on me fit apercevoir au bout d'une terrasse un pavillon qui avait été le témoin des plus doux moments. On me détailla sa situation, son ameublement. Quel dommage de n'en pas avoir la clé. Tout en causant, nous approchions. Il se trouva ouvert. Il ne lui manquait plus que la clarté du jour. Mais l'obscurité pouvait aussi lui prêter quelque charme. D'ailleurs, je savais combien était charmant l'objet qui allait l'embellir. Nous frémîmes en entrant. C'était un sanctuaire et c'était celui de l'amour. Il s'empara de nous, nos genoux fléchirent, nos bras défaillants s'enlacèrent et, ne pouvant nous soutenir, nous allâmes tomber sur un canapé qui occupait une partie du temple. La lune se couchait et le dernier de ses rayons emporta bientôt le voile d'une pudeur qui, je crois, devenait importune. Tout se confondit dans les ténèbres. La main qui voulait me repousser sentait battre mon cœur. On voulait me fuir. On retombait plus attendri. Nos âmes se rencontraient, se multipliaient. Il en laissait une de chacun de nos baisers. Devenue moins tumultueuse, l'ivresse de nos sens ne nous laissait cependant point encore l'usage de la voix. Nous nous entretenions dans le silence par le langage de la pensée. Madame de T se réfugiait dans mes bras, cachait sa tête dans mon sein, soupirait et se calmait à mes caresses. Elle s'affligeait, se consolait et demandait de l'amour pour tout ce que l'amour venait de lui ravir. Cet amour, qui l'effrayait un instant avant, la rassurait dans celui-ci. Si d'un côté, on veut donner ce qu'on a laissé prendre, on veut de l'autre, recevoir ce qui fut dérobé. Et, de part et d'autre, on se hâte d'obtenir une seconde victoire pour s'assurer de sa conquête. Tout ceci avait été un peu brusqué. Nous sentîmes notre faute. Nous reprîmes avec plus de détails ce qui nous était échappé. Trop ardent, on est moins délicat. On court à la jouissance en confondant tous les délices qui la précèdent. On arrache un nœud, on déchire une gaze partout. La volupté marque sa trace et bientôt, l'idole ressemble à la victime. Plus calme, nous trouvâmes l'air plus pur et plus frais. Nous n'avions pas entendu que la rivière dont les flots baignent les murs du pavillon, rompaient le silence de la nuit par un murmure doux qui semblait d'accord avec la palpitation de nos cœurs. L'obscurité était trop grande pour laisser distinguer aucun objet. Mais, à travers le crêpe transparent d'une belle nuit d'été, notre imagination faisait d'une île qui était devant notre pavillon un lieu enchanté. La rivière nous paraissait couverte d'amour qui se jouait dans les flots. Jamais les forêts de Cnid n'ont été si peuplées d'amants que nous en peuplions l'autre rive. Il n'y avait pour nous dans la nature que des couples heureux, et il n'y en avait point de plus heureux que nous. Nous aurions pu défier Psyché et l'amour. J'étais aussi jeune que lui, je trouvais Madame de T aussi charmante qu'elle. Plus abandonnée, elle me sembla plus ravissante encore. Chaque moment me livrait une beauté. Le flambeau de l'amour me l'éclairait pour les yeux de l'âme et le plus sûr des sens confirmait mon bonheur. Quand la crainte est bannie, les caresses cherchent les caresses. Elles s'appellent plus tendrement. On ne veut plus qu'une faveur soit ravie. Si l'on diffère, c'est raffinement. Le refus est timide et n'est qu'un tendre soin. On désire, on ne voudrait pas, c'est l'hommage qui plaît. Le désir flatte, l'âme en est exaltée. On adore, on ne cédera point, on a cédé. Ah, me dit-elle, avec une voix céleste, sortons de ce dangereux séjour. Sans cesse, les désirs s'y reproduisent et l'on est sans force pour leur résister. Elle m'entraîne. Nous nous éloignons à regret. Elle tournait souvent la tête, une flamme divine semblait briller sur le parvis. Tu l'as consacrée pour moi, me disait-elle. Qui saurait jamais y plaire comme toi, comme tu sais aimer? Qu'elle est heureuse. Qui donc? M'écriai-je avec étonnement. Ah, si je dispense le bonheur, à quel être dans la nature pouvez-vous porter envie? Nous passâmes devant le banc de gazon. Nous nous y arrêtâmes involontairement et avec une émotion muette. Quel espace immense, me dit-elle, entre ce lieu-ci et le pavillon que nous venons de quitter. Mon âme est si pleine de mon bonheur qu'à peine puis-je me rappeler d'avoir pu vous résister. Et bien, lui dis-je, verrai-je se dissiper ici le charme dont mon imagination s'était remplie là-bas? Ce lieu me sera-t-il toujours fatal? En est-il qui puisse te l'être encore quand je suis avec toi? Oui, sans doute, puisque je suis aussi malheureux dans celui-ci que je viens d'être heureux dans l'autre. L'amour veut des gages multipliés. Il croit n'avoir rien obtenu tant qu'il lui reste à obtenir. Encore? Non, je ne puis permettre, non, jamais. Et après un long silence, mais tu m'aimes donc bien? Je prie le lecteur de se souvenir que j'ai 20 ans. Cependant, la conversation changea d'objet. Elle devint moins sérieuse. On osa même plaisanter sur les plaisirs de l'amour, l'analyser, en séparer le moral, le réduire au simple, et prouver que les faveurs n'étaient que du plaisir, qu'il n'y avait d'engagement, philosophiquement parlant, que ceux que l'on contractait avec le public, en lui laissant pénétrer nos secrets et en commettant avec lui quelques indiscrétions. Quelle nuit délicieuse, dit-elle, nous venons de passer par l'attrait seul de ce plaisir, notre guide et notre excuse. Si des raisons, je le suppose, nous forçaient à nous séparer demain, notre bonheur, ignoré de toute la nature, ne nous laisserait par exemple aucun lien à dénouer, quelques regrets dont un souvenir agréable serait le dédommagement. Et puis, au fait, du plaisir, sans toutes les lenteurs, le tracas et la tyrannie des procédés. Nous sommes tellement machines, et j'en rougis, qu'au lieu de toute la délicatesse qui me tourmentait avant la scène qui venait de se passer, j'étais au moins pour moitié dans la hardiesse de ses principes. Je les trouvais sublimes et je me sentais déjà une disposition très prochaine à l'amour de la liberté. La belle nuit, me disait-elle, les beaux lieux. Il y a 8 ans que je les avais quittés, mais ils n'ont rien perdu de leur charme. Ils viennent de reprendre pour moi tous ceux de la nouveauté. Nous n'oublierons jamais ce cabinet, n'est-il pas vrai? Le château en recèle un plus charmant encore. Mais on ne peut rien vous montrer, vous êtes comme un enfant qui veut toucher à tout et qui brise tout ce qu'il touche. Un mouvement de curiosité qui me surprit moi-même me fit promettre de n'être que ce que l'on voudrait. Je protestais que j'étais devenu bien raisonnable. On changea de propos. Cette nuit, dit-elle, me paraîtrait complètement agréable si je ne me faisais un reproche. Je suis fâché, vraiment fâché, de ce que je vous ai dit de la comtesse. Ce n'est pas que je veuille me plaindre de vous. La nouveauté pique. Vous m'avez trouvé aimable et j'aime à croire que vous étiez de bonne foi. Mais l'empire de l'habitude est si long à détruire que je sens moi-même que je n'ai pas ce qu'il faut pour en venir à bout. J'ai d'ailleurs épuisé tout ce que le cœur a de ressources pour enchaîner. Que pourriez-vous espérer maintenant auprès de moi? Que pourriez-vous désirer? Et que devient-on avec une femme sans le désir et l'espérance? Je vous ai tout prodigué, à peine, peut-être, me pardonnerez-vous un jour les plaisirs qui, après le moment de l'ivresse, vous abandonnent à la sévérité des réflexions. À propos, dites-moi, comment avez-vous trouvé mon mari? Assez maussade, n'est-il pas vrai? Le régime n'est point aimable. Je ne crois pas qu'il vous ait vu de sang-froid. Notre amitié lui deviendrait suspecte. Il faudra ne pas prolonger ce premier voyage. Il prendrait de l'humeur. Dès qu'il viendra du monde, et sans doute, il en viendra. D'ailleurs, vous avez aussi vos ménagements à garder. Vous vous souvenez de l'air de monsieur hier en nous quittant? Elle vit l'impression que me faisaient ses dernières paroles et ajouta tout de suite « Il était plus gai lorsqu'il fit arranger avec tant de recherche le cabinet dont je vous parlais tout à l'heure. C'était avant mon mariage. Il est à côté de mon appartement. Il n'a jamais été pour moi qu'un témoignage des ressources artificielles dont monsieur de T avait besoin pour fortifier son sentiment et du peu de ressort que je donnais à son âme. C'est ainsi que, par intervalle, elle excitait ma curiosité sur ce cabinet. « Il tient à votre appartement, lui dis-je, quel plaisir d'y venger vos attraits offensés, de leur y restituer les vols qu'on leur a faits. On trouva ceci d'un meilleur ton. « Ah, lui dis-je, si j'étais choisi pour être le héros de cette vengeance, si le goût du moment pouvait faire oublier et réparer les langueurs de l'habitude. Si vous me promettiez d'être sage, dit-elle en m'interrompant, il faut l'avouer, je ne sentais pas toute la ferveur, toute la dévotion qu'il fallait pour visiter ce nouveau temple. Mais j'avais beaucoup de curiosité. Ce n'était plus Madame de T que je désirais. C'était le cabinet. Nous étions rentrés. Les lampes des escaliers et des corridors étaient éteintes. Nous errions dans un dédale. La maîtresse même du château en avait oublié les issues. Enfin, nous arrivâmes à la porte de son appartement, de cet appartement qui refermait ce réduit si vanté. « Qu'allez-vous faire de moi ?» lui dis-je. « Que voulez-vous que je devienne ? Me renverrez-vous seul ainsi dans l'obscurité? M'exposerez-vous à faire du bruit, à nous déceler, à nous trahir, à nous perdre? Cette raison lui parut sans réplique. Vous me promettez donc tout, tout au monde. On reçut mon serment. Nous ouvrîmes doucement la porte. Nous trouvâmes deux femmes endormies, l'une jeune, l'autre plus âgée. Cette dernière était celle de confiance. Ce fut elle qu'on éveilla. On lui parla à l'oreille. Bientôt, je la vis sortir par une porte secrète, artistement fabriquée dans un lambris de la boiserie. J'offris de remplir l'office de la femme qui dormait. On accepta mes services. On se débarrassa de tout ornement superflu. Un simple ruban retenait tous les cheveux qui s'échappaient en boucles flottantes. On y ajouta seulement une rose que j'avais cueillie dans le jardin et que je tenais encore par distraction. Une robe ouverte remplaça tous les autres ajustements. Il n'y avait pas un nœud à toute cette parure. Je trouvais Madame de T plus belle que jamais. Un peu de fatigue avait appesanti ses paupières et donnait à ses regards une langueur plus intéressante, une expression plus douce. Le coloris de ses lèvres, plus vif que de coutume, relevait l'émail de ses dents et rendait son sourire plus voluptueux. Des rougeurs éparses, ça et là, relevaient la blancheur de son teint et en attestaient la finesse. Ses traces du plaisir m'en rappelaient la jouissance. Enfin, elle me parut plus séduisante encore que mon imagination ne se l'était peinte dans nos plus doux moments. Le lambris s'ouvrit de nouveau et la discrète confidente disparut. Près d'entrer, on m'arrêta. Souvenez-vous, me dit-on gravement, que vous serez censé n'avoir jamais vu, ni même soupçonné l'asile où vous allez être introduit. Point d'étourderie, je suis tranquille sur le reste. La discrétion est la première des vertus. On lui doit bien des instants de bonheur. Tout cela avait l'air d'une initiation. On me fit traverser un petit corridor obscur en me conduisant par la main. Mon cœur palpitait comme celui d'un jeune prosélyte que l'on éprouve avant la célébration des grands mystères. « Mais votre comtesse, me dit-elle en s'arrêtant, j'allais répliquer. Les portes s'ouvrirent, l'admiration intercepta ma réponse. Je fus étonné, ravi. Je ne sais plus ce que je devins, et je commençais de bonne foi à croire à l'enchantement. La porte se referma, et je ne distinguais plus par où j'étais entré. Je ne vis plus qu'un bosquet aérien qui, sans issue, semblait de tenir et ne portait sur rien. Enfin, je me trouvais dans une vaste cage de glace, sur lesquelles les objets étaient si artistement peints que, répétés, ils produisaient l'illusion de tout ce qu'ils représentaient. On ne voyait intérieurement aucune lumière. Une lueur douce et céleste pénétrait selon le besoin que chaque objet avait d'être plus ou moins aperçu. Des cassolettes exhalaient de délicieux parfums, des chiffres et des trophées dérobaient aux yeux la flamme des lampes qui éclairaient d'une manière magique ce lieu de délices. Le côté par où nous entrâmes représentait des portiques en treillage ornés de fleurs. et des berceaux dans chaque enfoncement. D'un autre côté, on voyait la statue de l'amour distribuant des couronnes. Devant cette statue était un autel sur lequel brillait une flamme. Au bas de cet autel était une coupe, des couronnes et des guirlandes. Un temple d'une architecture légère achevait d'orner ce côté. Vis-à-vis était une grotte sombre. Le dieu du mystère veillait à l'entrée. Le parquet, couvert d'un tapis pluché, imitait le gazon. Au plafond, des génies suspendaient des guirlandes et du côté qui répondait au portique était un dé sous lequel s'accumulait une quantité de carreaux avec un baldaquin soutenu par des amours. Ce fut là que la reine de ce lieu alla se jeter nonchalamment. Je tombai à ses pieds, elle se pencha vers moi, elle me tendit les bras, et dans l'instant, grâce à ce groupe répété dans tous ses aspects, je vis cette île, toute peuplée d'amants heureux. Les désirs se reproduisent par leurs images. Laisserez-vous, lui dis-je, ma tête sans couronne, si près du trône pourrais-je éprouver des rigueurs, pourriez-vous y prononcer un refus ? Et vos serments, me répondit-elle en se levant. J'étais un mortel quand je les fis. Vous m'avez fait un dieu. Vous adorez, voilà mon seul serment. Venez, me dit-elle. L'ombre du mystère doit cacher ma faiblesse. Venez. En même temps, elle s'approcha de la grotte. À peine en avions-nous franchi l'entrée, que je ne sais quel ressort, adroitement ménagé, nous entraîna. Portés par le même mouvement, nous tombâmes mollement renversés sur un monceau de coussins. L'obscurité régnait avec le silence dans ce nouveau sanctuaire. Nos soupirs nous tinrent lieu de langage. Plus tendres, plus multipliés, plus ardents, ils étaient les interprètes de nos sensations. Ils en marquaient les degrés, et le dernier de tous, quelque temps suspendu, nous avertit que nous devions rendre grâce à l'amour. Elle prit une couronne qu'elle posa sur ma tête, et soulevant à peine ses beaux yeux humides de volupté, elle me dit « Eh bien, aimerez-vous jamais la comtesse autant que moi ?» J'allais répondre. Lorsque la confidente, en entrant précipitamment, me dit « Sortez bien vite, il fait grand jour, on entend déjà du bruit dans le château. » Tout s'évanouit. Avec la même rapidité que le réveil détruit un songe, et je me trouvais dans le corridor avant d'avoir pu reprendre mes sens. Je voulais regagner mon appartement, mais où aller le chercher ? Toute information me dénonçait, toute méprise était une indiscrétion. Le parti le plus prudent me parut de descendre dans le jardin où je résolus de rester jusqu'à ce que je puisse rentrer avec vraisemblance d'une promenade du matin. La fraîcheur et l'air pur de ce moment calmèrent par degrés mon imagination et en chassèrent le merveilleux. Au lieu d'une nature enchantée, je ne vis qu'une nature naïve. Je sentais la vérité rentrer dans mon âme et penser naître sans trouble et se suivre avec ordre. Je respirais enfin. Je n'eus rien de plus pressé alors que de me demander si j'étais l'amant de celle que je venais de quitter. Et je fus bien surpris de ne savoir que me répondre. Qui m'eût dit hier, à l'opéra, que je pourrais me faire une telle question, moi qui croyais savoir qu'elle aimait éperdument et depuis 2 ans le marquis de... Moi qui me croyais tellement épris de la comtesse, qu'il devait m'être impossible de lui devenir infidèle, quoi. Hier, Madame de T, est-il bien vrai Aurait-elle rompu avec le marquis? M'a-t-elle pris pour lui succéder ou seulement pour le punir? Quelle aventure, quelle nuit! Je ne savais si je ne rêvais pas encore. Je doutais, puis j'étais persuadé, convaincu, et puis je ne croyais plus rien. Tandis que je flottais dans ces incertitudes, j'entendis du bruit près de moi. Je levai les yeux, me les frottai, je ne pouvais croire c'était qui? Le marquis, son amant. Tu ne m'attendais pas si matin, n'est-il pas vrai? Eh bien, comment cela s'est-il passé? Tu savais donc que j'étais ici? Lui demandai-je. Ben oui, vraiment. On me le fit dire hier au moment de votre départ. As-tu bien joué ton personnage? Le mari a-t-il trouvé ton arrivée bien ridicule? Quand te renvoie-t-on? J'ai pourvu à tout. Je t'amène une bonne chaise qui sera à tes ordres, c'est à charge d'autant. Il fallait un écuyer à Madame de T. Tu lui en as servi, tu l'as amusé sur la route, c'est tout ce qu'elle voulait et ma reconnaissance. Oh, non, non, je sers avec générosité. Et dans cette occasion, Madame de T pourrait te dire que j'y ai mis un zèle au-dessus des pouvoirs de la reconnaissance. Il venait de débrouiller le mystère de la veille et de me donner la clé du reste. Je sentis dans l'instant mon nouveau rôle. Chaque mot était en situation. Pourquoi venir si tôt, dis-je? Il me semble qu'il eût été plus prudent. Tout est prévu. C'est le hasard qui semble me conduire ici. Je suis censé revenir d'une campagne voisine. Madame de T ne t'a donc pas mis au courant. Je lui veux du mal de ce défaut de confiance, après ce que tu faisais pour nous. Elle avait sans doute ses raisons, et peut-être, si elle eût parlé, n'aurais-je pas si bien joué mon personnage. Cela, mon cher, a donc été bien plaisant. Conte-moi les détails, conte donc. Ah, un moment, je ne savais pas que tout ceci était une comédie, et bien que je sois pour quelque chose dans la pièce, ah, tu n'avais pas le beau rôle. Va, va, rassure-toi, il n'y a pas de mauvais rôle pour de bons acteurs. J'entends, tu t'en es bien tiré, merveilleusement. Et Madame de T, sublime, elle a tous les genres. Conçois-tu qu'on ait pu fixer cette femme-là? Cela m'a donné de la peine. Mais j'ai amené son caractère au point que c'est peut-être la femme de Paris sur la fidélité de laquelle il y a le plus à compter. Fort bien. C'est mon talent à moi. Toute son inconstance n'était que frivolité, dérèglement d'imagination. Il fallait s'emparer de cette âme-là. C'est le bon parti. N'est-il pas vrai? Tu n'as pas d'idée de son attachement pour moi. Au fait, elle est charmante, tu en conviendras. Entre nous, je ne lui connais qu'un défaut. C'est que la nature, en lui donnant tout, lui a refusé cette flamme divine qui met le comble à tous ses bienfaits. Elle fait tout naître, tout sentir, et elle n'éprouve rien. C'est un marbre. Il faut en croire, car moi je ne puis. Mais sais-tu que tu connais cette femme-là comme si tu étais son mari? Vraiment, c'est à s'y tromper. Et si je n'ai pas soupé hier avec le véritable, à propos, a-t-il été bien bon? Jamais on n'a été plus mari que cela. Oh, la bonne aventure! Mais tu n'en ris pas assez à mon gré. Tu ne sens donc pas tout le comique de ton rôle. Conviens que le théâtre du monde offre des choses bien étranges, qu'il s'y passe des scènes bien divertissantes. Rentrons, j'ai de l'impatience d'en rire avec Madame de T. Il doit faire jour chez elle. J'ai dit que j'arriverai de bonne heure. Décemment, il faudrait commencer par le mari. Viens chez toi, je veux remettre un peu de poudre. On t'a donc bien pris pour un amant? Tu jugeras de mes succès par la réception qu'on va me faire. Il est 9 heures. Allons de ce pas chez monsieur. Je voulais éviter mon appartement, et pour cause. Chemin faisant, le hasard m'y amena. La porte restait ouverte. Nous laissa voir mon valet de chambre qui dormait dans un fauteuil. Une bougie expirait près de lui. En s'éveillant au bruit, il présenta étourdiment ma robe de chambre au marquis, en lui faisant quelques reproches sur l'heure à laquelle il rentrait. J'étais sur les épines, mais le marquis était si disposé à s'abuser qu'il ne vit rien en lui qu'un rêveur qui lui apprêtait à rire. Je donnai mes ordres pour mon départ à mon homme qui ne savait ce que tout cela voulait dire. Et nous passâmes chez monsieur. On s'imagine bien qui fut accueilli. Ce ne fut pas moi, c'était dans l'ordre. On fit à mon ami les plus grandes instances pour s'arrêter. On voulut le conduire chez madame, dans l'espérance qu'elle le déterminerait. Quant à moi, on osait, disait-on, me faire la même proposition, car on me trouvait trop abattu pour douter que l'air du pays ne me fût pas vraiment funeste. En conséquence, on me conseilla de regagner la ville. Le marquis m'offrit sa chaise, je l'acceptai. Tout allait à merveille et nous étions tous contents. Je voulais cependant voir encore Madame de T. C'était une jouissance que je ne pouvais me refuser. Mon impatience était partagée par mon ami qui ne concevait rien à ce sommeil et qui était bien loin d'en pénétrer la cause. Il me dit en sortant de chez Monsieur de T. Cela n'est-il pas admirable? Quand on lui aurait communiqué ses répliques, aurait-il pu mieux dire? Au vrai, c'est un fort galant homme, et tout bien considéré, je suis très aise de ce raccommodement. Cela fera une bonne maison, et tu conviendras que pour en faire les honneurs, il ne pouvait mieux choisir que sa femme. Personne n'était plus que moi pénétré de cette vérité. Quelque plaisant que soit cela, mon cher motus, le mystère devient plus essentiel que jamais. Je saurais faire entendre à Madame de T que son secret ne saurait être en de meilleures mains. Crois, mon ami, qu'elle compte sur moi, et tu le vois. Son sommeil n'en est point troublé. Oh, il faut convenir que tu n'as pas ton second pour endormir une femme. Et un mari, mon cher, un amant même, au besoin. On avertit enfin qu'on pouvait entrer chez Madame de T, et nous nous y rendîmes. Je vous annonce, madame, dit en entrant notre causeur, vos deux meilleurs amis. Je tremblais, me dit Madame de T, que vous ne fussiez partie avant mon réveil. Et je vous sais gré d'avoir senti le chagrin que cela m'aurait donné. Elle nous examinait l'un et l'autre. Mais elle fut bientôt rassurée par la sécurité du marquis qui continua de me plaisanter. Elle en rit avec moi autant qu'il le fallait pour me consoler et sans se dégrader à mes yeux. Elle adressa à l'autre des propos tendres, à moi d'honnête et décent. Badina et ne plaisanta point. Madame, dit le marquis, il a fini son rôle aussi bien qu'il l'avait commencé. Elle répondit gravement. J'étais sûr du succès de tous ceux que l'on confierait à monsieur. Il lui raconta ce qui venait de se passer chez son mari. Elle me regarda, m'approuva et ne rit point. Pour moi, dit le marquis, qui avait juré de ne plus finir, je suis enchanté de tout ceci. C'est un ami que nous nous sommes faits, madame. Je te le répète encore, notre reconnaissance. Et, monsieur, dit Madame de T, brisons là-dessus. Et croyez que je sens tout ce que je dois à monsieur. On annonça monsieur de T. Et nous nous trouvâmes tous en situation. Monsieur de T m'avait persiflé et me renvoyé. Mon ami le dupait et se moquait de moi. Je le lui rendais, tout en admirant Madame de T, qui nous jouait tous, sans rien perdre de la dignité de son caractère. Après avoir joui quelques instants de cette scène, je sentis que celui de mon départ était arrivé. Je me retirai. Madame de T me suivit, feignant de vouloir me donner une commission. Adieu, monsieur. Je vous dois bien des plaisirs. Mais je vous ai payé d'un beau rêve. Dans ce moment, votre amour vous rappelle. Celle qui en est l'objet en est digne. Si je lui ai dérobé quelques transports, je vous rends à elle plus tendre, plus délicat et plus sensible. Adieu. Encore une fois, vous êtes charmant. Ne me brouillez pas avec la comtesse. Elle me serra la main et me quitta. Je montai dans la voiture qui m'attendait. Je cherchais bien la morale de toute cette aventure. Et je n'en trouvais point.
Point de lendemain de Vivant de nom, lecture par Philippe Solers à l'Auditorium du Louvre, le 6 décembre 1999.